nous vivons des bouleversements liés aux suites de la décolonisation, proche au Moyen-Orient. On parle beaucoup avec le Liban, c'est dans l'actualité. L'effondrement, évidemment, du bloc soviétique, qui a libéré d'autres forces, qui étaient là, présentes, mais sous une chape de plomb. L'échec du panarabisme et de Nasser. Le surgissement de l'islam chiite avec la victoire en Iran de l'ayatollah Khomeini et de ce qu'il portait, alors qu'il s'agissait d'une révolution en partie démocratique et portée par des forces politiques laïques aussi. Tout cela a profondément bouleversé la carte du monde. Et les interventions successives, et notamment la dernière en Irak, de la part des Américains, ont précipité sans doute le Proche et le Moyen-Orient, et donc en partie aussi l'islam, dans un chaos dont les conséquences sont innombrables. Je vais là aussi très vite, mais il faut toujours se rappeler à cela. J'ai interrogé, il y a peu de temps, il y a un peu plus d'un an, un homme dont on parle beaucoup, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il faut lui demander, il y a une part de responsabilité de l'Arabie Saoudite et du wahhabisme dans le changement de l'islam. Il le reconnaît d'ailleurs, tout en me rappelant que nous avons utilisé, le nous étant les Occidentaux, et plus particulièrement les Américains, nous avons utilisé ces forces-là, celles du wahhabisme, dans le conflit entre l'Est et l'Ouest, entre l'Ouest et l'Est, et plus particulièrement en Afghanistan. Ce qui explique aussi la migration, si je peux dire, de Ben Laden en Afghanistan. Donc les causes, elles sont à la fois politiques, et la géopolitique a utilisé la religion aussi au moment de la logique des blocs. Mais il est vrai que la propagation du wahhabisme, avec des moyens considérables, a changé la face de l'islam en Asie, et plus particulièrement en Afrique, dans un islam qui était un mélange de la conquête de l'Afrique par l'islam, la conversion, mais aussi des traditions africaines. Et cela est aujourd'hui en danger par la puissance du message du wahhabisme avec des moyens financiers. Oh, ça n'est pas quelque chose qui serait privilégié du côté de l'islam. Je pourrais prendre un autre exemple pour me faire comprendre. Il y a des puissances politiques et financières qui ont aidé, par exemple, aussi à la propagation de mouvements évangélistes en Afrique ou en Amérique latine, à des fins religieuses et à des fins politiques. Je le dis parce que la religion, là, est utilisée comme un moyen de conquête politique et d'influence. Mais la force du wahhabisme, avec ses télévisions, maintenant avec les réseaux sociaux, la force aussi, là également, dans une volonté d'influence d'Al Jazeera sur les opinions, tout cela, dit trop rapidement, et à coup de serpe également, a changé la donne, et pour l'islam, pour les musulmans, mais évidemment sur plusieurs continents. Et donc du coup, et c'est le deuxième point que je veux aborder, les défis qui sont posés à l'islam, et que rappelait le grand rabbin, sont considérables. Et à l'échelle d'une religion du monde et de l'histoire, ce sont des défis qui mettront du temps à être relevés. Avec la nécessité pour nous tous, quel que soit notre point de vue, notre position dans la société, de dire précisément aux musulmans et à l'islam, de France à l'islam européen, vous avez votre propre responsabilité. Ce n'est pas une injonction seulement. La phrase que je rappelais tout à l'heure, que nous avons les uns et les autres prononcée, tout cela n'a rien à voir avec l'islam après les attentats, est une phrase fausse, dont l'intention était bonne, qui consistait à protéger nos compatriotes musulmans qui se sentaient désignés. Et reconnaissons qu'en France, même s'il faut être prudent, et qu'il y a eu des tentatives, qu'il y a eu des gestes, il y a eu des mosquées qui ont été attaquées, il y a des mots racistes, et qu'il y a toujours un danger que les services de renseignement sont très attentifs, bien sûr, à des groupes identitaires qui pourraient s'en prendre à des musulmans, et sans doute un attentat très grave a-t-il été évité il y a quelques années du côté de Bordeaux, par des groupes identitaires. Bernard Cazeneuve, qui à ce moment-là devait être ministre de l'Intérieur, mais malgré tout, la société française a magnifiquement réagi. La paix, la fraternité ont plutôt prévalu. Cependant, ces mots, cette phrase, elle est d'une certaine manière un abandon de toute responsabilité. Or, je suis convaincu, moi aussi, il appartient aux musulmans, avec notre soutien, des conditions qui sont très difficiles à réaliser, d'extirper ce cancer que représente l'idéologie islamiste, que représente le salafisme ou l'influence des frères musulmans. Ce qui nous renvoie à des questions qui sont beaucoup trop longues à aborder là, mais à l'organisation de l'islam de France, très compliquée, au rôle des intellectuels, à la lecture ou à la relecture de l'islam et du Coran à un niveau historique. Dire cela, déjà, est nous mettre en danger, vous le savez. Et pourtant, c'est indispensable. Et l'État peut jouer son rôle sans mettre en cause la loi 1905 à travers les chaires universitaires, à travers le fait qu'on soutienne des intellectuels, des penseurs, mais reconnus. Où sont les théologiens de l'islam français, parlant français, avec la force de l'université, de la culture, capables aujourd'hui de le faire? Aujourd'hui, ceux qui parlent bien en France, ceux qui ont une influence, ceux qui sont des Français, sont du côté des salafistes. Donc, toute parole qui vient de l'extérieur, sur des jeunes compatriotes qui succombent à l'islamisme, n'a aucune force, sinon celle qui vient directement de l'État islamique ou des réseaux les plus puissants et les plus dangereux. Il suffit de lire la littérature de l'État islamique. Elle est bien faite. Sur des cerveaux évidemment fragiles, mais elle est bien faite. Elle est particulièrement redoutable. Donc il y a, pour dire les choses autrement, la nécessité. Et l'État doit y prendre sa part à sa manière, ce qui est déjà très compliqué. Nous l'avons vu avec ce que nous avons fait, nous avons créé par exemple en termes d'études sur l'islam à l'université de Strasbourg. Nous l'avons fait à Strasbourg précisément parce qu'il y a le concordat et que nous ne sommes pas dans l'application des lois de 1905 ou de la République. Mais ça avance. Défi considérable. Et il y en a pour des années. Et chacun doit y prendre sa part. Enfin, troisième question, pourquoi sommes-nous attaqués? L'idée des lois d'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école, ça concerne d'ailleurs tous les signes religieux, ou la loi interdisant le voile intégral dans l'espace public, j'ai voté cette loi comme député, qui serait le prétexte pour attaquer la France, c'est vrai que c'est utilisé hein, dans les documents de propagande de l'État islamique. Mais alors pourquoi s'attaque-t-il à Madrid, à Barcelone, à Berlin, à Londres, à Bruxelles ou aux États-Unis, alors que ces lois n'existent pas et que le rapport à la laïcité d'une toute autre... Je pense que le terrorisme s'attaque à la démocratie, à des valeurs universelles. Et il s'attaque sans doute à la France par rapport à ce que nous sommes véritablement. La France des Lumières, qui a rayonné dans le monde, l'universalisme, qui pour eux est totalement contraire à l'idée qu'ils se font du rôle de la religion, de l'islam et de chaque individu. Et donc, il s'attaque à un modèle. Et c'est ce modèle-là qu'il nous convient de défendre. Il y a, et j'en termine, il y a de mon point de vue, un moment clé en France. C'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est un moment clé de la construction de la République et de la confiance. Un officier juif trahi, la France, entre guillemets, est au cœur d'une des plus grandes controverses. Une partie de la gauche, d'ailleurs, est incapable de réagir à ce moment-là. Et Jaurès lui-même mettra du temps, et il prendra le temps, et il le fera, pour s'engager aux côtés de Clémenceau et de Zola dans ce combat essentiel. Mais Clémenceau et Zola remportent ce combat, mais c'est un moment clé parce que l'antisémitisme est une réalité dans les écrits qui viennent de l'extrême droite, mais aussi parfois de l'extrême gauche, parce que c'est l'argent. Cet antisémitisme recule pour la première fois, de manière spectaculaire dans le cadre de la République. Et ça, c'est aussi la France. Les Lumières, un judaïsme fondamentalement intégré et un pays qui, par l'intermédiaire de ses élites, dit non à l'antisémitisme. Et c'est pour cela que la résurgence de l'antisémitisme, sous toutes ses formes, et notamment à travers l'islamisme, mais aussi à travers l'extrême droite et à travers l'extrême gauche, et la synthèse entre les deux, et cette synthèse, c'est de données qui se produit ce soir à Marseille, ou un pauvre socialiste perdu qui fait un tweet qui fait parler de lui ce week-end, qui mérite la plus grande condamnation. Mais toutes ces synthèses, quand elles reviennent dans ce moment particulier que j'ai trop rapidement rappelé, où la géopolitique a changé, et on refait de l'universalisme et de la France des Lumières la cible. Et dans cette cible, il y a les juifs, il y a le judaïsme. Et l'une des raisons pour lesquelles je me bats avec autant de conviction contre l'antisémitisme, c'est pas parce qu'il est seulement insupportable, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu les crimes affreux du XXe siècle, et le mot est faible, mais c'est parce qu'en s'attaquant au judaïsme français et aux juifs de France, on s'attaque à ce que nous sommes tout particulièrement. Et c'est mon mot de conclusion. Si j'ai un espoir, c'est que dans quelques décennies, le plus vite possible, les musulmans de France puissent être profondément fiers d'être à la fois français et musulmans, de confession ou de culture. Il est là notre défi. Et cette fierté, elle sera le fruit d'un immense travail sur eux-mêmes et sur nous-mêmes. Ma laïcité n'est pas une laïcité de combat, je n'aime pas ce mot. Et je n'aime pas quand on met un adjectif au mot laïcité, ou quand on parle de laïcisme ou de laïcat. Je défends cette conception de la laïcité dans un pays qui se dit laïque, l'État, qui revendique la séparation des églises et de l'État, et qui parle en permanence de religion, et qui fait qu'un ancien Premier ministre discute aujourd'hui de ces questions-là avec un grand rabbin. C'est ça le paradoxe de la France, et c'est ça qui fait la beauté de la France, et c'est ce modèle-là qu'il faut défendre. Et c'est pour cela qu'il ne faut céder en rien du moindre terrain, et qu'il faut parler vrai aux uns et aux autres. Et il faut parler vrai, quitte à secouer les choses, et ça risque de me coûter cher dans ma circonscription, vis-à-vis de mes concitoyens musulmans, en leur disant, non, voilà, vous êtes profondément français, au nom d'une certaine conception de l'universalisme, votre place est pleinement dans notre communauté nationale, à vous de faire le travail, et réussissons ensemble, ce qui n'est pas possible ailleurs, mais qui est possible en France et peut-être en Europe, de cette belle démonstration que nous sommes capables tous de vivre ensemble, qu'on croit ou qu'on ne croit pas.